Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les éternels de la critique, Sophie Avon, de Sud-Ouest, Michel Simon, de Positif, Eric Nohoff du Figaro et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession. On parle ce soir des éternels, mais aussi de celles que vous croyez, du mystère Henri Pic, d'Exfiltré, de Stan et Oli, de Marie Stuart et des étendues imaginaires. Dans le courrier de la semaine, eh bien, ce n'est pas une colère, c'est une révolte. Pour avoir osé critiquer le chant du loup d'Antonin Baudry, Le Masque a reçu cette semaine une salve de torpilles. Je ne peux pas évidemment tout lire, quelques réactions dans un courrier volumineux. Julien Casal, vous avez le droit de passer à côté, mais reconnaissez à ce film ses qualités sans insulter ceux qui l'ont fait, c'est proprement dégueulasse. Mathieu Coville, ne pas mentionner les effets visuels impressionnants, le rythme et l'originalité du scénario, le travail sur le son sont des fautes. Merci aux spectateurs dans le public qui est intervenu salutairement pour défendre le film. Rémi Penaud, l'écriture de Baudry est efficace, elle repose sur les paradoxes imposés par l'ahurissante maîtrise de l'arme nucléaire, et cela, vous ne l'avez même pas vu. Les acteurs font le job et vous leur tombez dessus sans argument. Agnès Fayol veut défendre l'extraordinaire premier film d'Antonin Baudry. J'ai apprécié le travail sur le son et j'ai trouvé passionnant de découvrir cette fonction qu'occupe le personnage de François Civil. La photographie est époustouflante, c'est très beau. Nina Smidren de Pointe-à-Pitre est scandalisée par le traitement que Le Masque a infligé au chant du loup. J'ai appris énormément de choses sur le métier de sous-marinier, sur l'être humain en général lorsqu'il est confronté au sacrifice ultime. Vous faites preuve, Xavier, d'antimilitarisme primaire.
Ah oui, ça, c'est une question, je réponds affirmativement.
Que c'est bel et bien la dissuasion nucléaire qui vous permet, cher chroniqueur du masque, de pouvoir lancer vos excellentes saillies tous les dimanches soirs. Je dois dire que j'en avais beaucoup lu dans ma vie, l'animateur, mais le masque protégé par le bouclier nucléaire, ça, je connaissais pas encore. Daniel Maurice Valeret, fils d'officier de marine et fidèle auditeur, je regrette vos sarcasmes et votre incompréhension sur le fond. C'est un beau film d'action avec une vraie réflexion sur notre époque de guerre froide renaissante et sur les enjeux de la dissuasion. Olivier Laroche est consterné pour une fois que le cinéma français nous propose autre chose que des chroniques sociales et des comédies. Balayer ce film d'un revers de main montre une totale fermeture d'esprit de votre part. Pauline, la chère bourgeoise que je suis, a beaucoup appris en s'immergeant aux côtés de ses sous-mariniers. Ces hommes apprennent la guerre en théorie pour l'éviter en pratique. Je trouve cela dommage que vous soyez passé à côté. Ou encore Jean Tardy qui trouve que Le Chant du loup est d'une rare ambition pour un film français. Le suspense fonctionne parfaitement, c'est un grand film. Ou encore Clémence Douchet, film haletant, j'ai trouvé indécent le ton employé par vos critiques et même insultant. Véronique Valentino, cher masque, quand je vous disais que c'était une salve de torpilles, vous avez été tous unanimes à aimer le dernier volet de La Planète des Singes, cette bouse hollywoodienne, et unanime pour descendre Le Chant du loup. C'est pourtant un bon suspense. Je vous écoute et vous apprécie depuis très longtemps, mais parfois, je me demande si vous ne regardez pas les films
chacun son animal,
en diagonale. Mathilde Brezé est lapidaire. On se passionne, oui, pour le départ d'une torpille. On est submergé par des émotions primaires et on sort de la salle boosté aux hormones nucléaires. Voilà, et puis Thierry Curivan encore, qui situe le film entre Le Grand Bleu et Les Patriotes, ou encore Étienne Griveaux qui nous écrit « Je vous ai entendu assassiner ce film que j'ai adoré. Il va me falloir du temps pour me réconcilier avec mon masque, dont la critique est parfois... »
Le masque de plongée.
Délicieusement injuste. Voilà, d'autres lettres que je ne peux pas citer. Alors, pour faire la paix, un poème que nous envoie Tamara de Pau, qui nous écoute en podcast. Jérôme, Jean-Marc, Xavier, Sophie, Michel, Pierre, Nicolas, Eric, masqué, plumé, tous les lundis, un pur plaisir radiophonique, esprit à la pointe du fleuret, gauche, droite, gauche, Uppercut KO, prends ça Noé, en garde Chalamet, de neuf gaga, Kéchiche, Chebeau, mauvaise foi, moquerie, Zémarotte, Neuf, Sesclaf, Simon, Ergot, mais sur le ring de la critique, le vrai vainqueur est l'auditeur. Merci Tamara de Pau. Allez, on commence avec quelques semaines après La Favorite de Yorgos Lanthimos. Retour donc à la cour d'Angleterre avec Mary Stuart de Josie Rourke, le énième biopic de la reine d'Écosse, avec Sir Sharon Anne dans le rôle titre, accent écossais compris, veuve à 18 ans, après le décès de son époux, je le rappelle, le roi de France, François II, elle quitte la France en 1561 pour revenir dans son Écosse natale et monter sur le trône qui lui revient de droit. Seulement voilà, la reine d'Angleterre, Elisabeth Ier, c'est Margot Robbie, eh ben, elle n'est pas du tout d'accord. Elle finit après maints épisodes, trahison, complot, par la faire enfermer. On peut raconter d'ailleurs tout à fait la fin. C'est comme Titanic, hein, puisque Mary Stuart est exécutée en 1587 sur ordre de sa rivale et que, c'est bien connu, le bourreau a eu besoin de 3 coups de hache pour l'achever. On peut dire que côté costume, décor et même chevaux, on en a pour son argent et ça dure 2h05. Moi, j'aimerais bien quand même une semaine de cinéma sans La cour d'Angleterre, mais bon, ça c'est personnel. Xavier ?
C'est moins étouffe crétin quand même que le Lanthimos, que La Favorite.
T'as dit étouffe crétin ?
Ah oui, 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 avec...
C'était un bon mot.
J'ai tenté un jeu de mots en début d'émission. Bon, bah c'est raté, ok. Alors, quel sort on lui réserve à la pauvre Mary Stuart qui a perdu la tête ? C'est un scénario qui aurait pu être très bien, qui s'aventure sur le terrain justement du féminisme, puisque le scénario met en avant le fait qu'elles étaient moins en train de se trahir elles-mêmes que d'être trahies par les hommes qui les entouraient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clairement des mecs qui sont autour d'elles, qui sont des frères, qui sont des maris, qui sont des pères potentiels, qui essayent absolument de récupérer ce pouvoir qui ne peut pas appartenir à des femmes, qui ne peut appartenir, en gros, qu'appartenir qu'à des gens qui ont quelque chose dans la culotte. Donc ça, si le scénario s'était focalisé là-dessus, cristallisé là-dessus, ça aurait été plutôt une bonne idée, parce qu'effectivement, c'est toujours la rivalité entre Mary Stuart et Elisabeth, qui termine au crépage de chignon, genre Mylène Farmer dans Libertine, ce qui ne me dérange pas, mais qui, voilà. Là, au moins, on a une vraie réflexion sur le patriarcat de l'époque. Sauf que le scénario se veut également pédagogique. On nous rappelle tout le temps un tout petit peu la situation des protestants, des catholiques, la guerre de religion, la position du pape. Il y a toujours une espèce de dialogue comme ça, un peu pédagogique, qui vient entraver la dimension féminine du scénario. Et puis, il y a la mise en scène. Alors, elle vient du théâtre et elle a une angoisse.
Ça se voit. Hein.
Ça se voit et en même temps, elle fait tout pour le faire oublier. C'est-à-dire que la caméra passe son temps à bouger dans des installations qui sont très scénographiques, qui sont très lourdes, qui sont très démonstratives. Elle n'hésite devant rien. Tu l'as dit, il y a des chevaux, il y a des danses, il y a des ballets, il y a des reconstitutions musicales, il y a des assassinats à 25 contre le pauvre assassiné. Enfin voilà, elle veut vraiment donner du théâtre élisabétain à l'intérieur de cette situation et pourquoi pas. Sauf qu'il y a un moment, on a envie de lui dire, mais calme ta caméra, trouve un point de vue, trouve quelque chose sur lequel mais t'ancrer, parce que c'est pas possible. Elle veut faire un plan esthétique à chaque seconde et c'est insupportable. Et alors elle commet la faute de goût absolue, c'est-à-dire que quand Mary Stuart accouche de son enfant, elle est là les cuisses écartées avec des linges sanguinolents et de l'autre côté Elisabeth qui n'aura jamais d'enfant vient de détruire une tapisserie faite de coquelicots qu'elle était en train de travailler et elle est dans la même situation, les cuisses écartées avec des morceaux de tissu rouge qui font donc écho au sang que vient de verser Mary Stuart. Et là on se dit non, dans le symbolisme et la métaphore, madame, calmez-vous.
Eric.
Bah, une reine, ça va, mais deux reines, bonjour les dégâts. Là, c'est...
Oh, bah, c'est plus que deux, puisque si on fait le compte depuis...
Non, mais là, dans le film.
Oui.
J'en ai vu que deux, moi. Mais j'ai peut-être dormi à un moment donné, mais tu as... Tu as tort, Xavier. Elle est là, Mylène Farmer. Elle est rousse,
oui,
elle a
rousse,
la petite
oui.
vérole, elle a des belles robes, elle habite à la même époque.
Bah, Mylène Farmer n'a pas la petite vérole.
Bah,
oui,
non,
je ne sais pas d'où tu viens.
Non, parce qu'on voit Margot Robbie qui est une fille sublime avec un faux nez crochu, pleine de taches de petites véroles sur le visage. Celle dont le nom est imprononçable, en tout cas le prénom là.
Saoirse Ronan.
Saoirse, voilà.
Saoirse
Ronan.
Ça s'écrit Saoirse.
Ouais,
qui est... Et un français approximatif.
Ouais,
hein.
Bah elle est irlandaise, elle joue une reine d'Écosse mariée, enfin veuve de François Ier, alors c'est un peu compliqué.
Elle crie à sa cuisine
François
à un moment, il faut comprendre qu'elle crie à sa cousine.
François II,
à un moment, j'ai eu un petit doute.
Bah,
hein.
J'ai dû dormir à un moment donné. Non, mais c'est, moi je préfère 100 fois l'Antimos, hein, contrairement à vous.
Oh,
au moins, au moins c'est marrant, il se passe quelque chose, c'est écrit. Là, c'est vraiment le cours du soir, réviser votre histoire de l'Angleterre en Technicolor, avec des gros moyens. C'est un film très soigné, qui a dû coûter très cher, très banal aussi, parce que tout est attendu. On voit l'exécution pratiquement dès le début et on la retrouve à la fin. Et il y a une scène encore pire que le parallèle entre l'accouchement et l'histoire des coquelicots. C'est quand elles se rencontrent, rencontre qui paraît-il n'a jamais existé. Alors là, c'est du David Hamilton avec des draps qui pendent, qui volettent au vent. Elles se frôlent, elles se rejoignent, elles sont là. C'est tendre cousine, c'est le cas de le dire. Non, le film est
bon.
Pas très intéressant, mais si on connaît rien à l'Angleterre comme moi, on peut le voir.
Mais j'ai l'impression que plus on s'approche du Brexit, plus on sort des films sur le...
Ah oui, alors, oui, parce que soi-disant, c'est un film sur le Brexit, c'est un film sur MeToo.
Voilà.
Maintenant, tous les trucs sont sur l'actualité.
Sophie.
C'est drôle parce que la scène dont tu parles, Eric, elle est paraît-il, inventée. Celle-là
n'a
pas eu lieu, ils en sont sûrs.
Ouais,
bah, et du coup, c'est vrai qu'elle est ratée. Je vous trouve quand même un peu sévère. Je trouve le film, alors, je sais pas, je dois avoir un tropisme en ce moment sur les films historiques, mais je trouve que pour le coup, il est, moi aussi, je préfère peut-être le Lantinos. Je sais que vous l'aviez détesté, mais Eric et moi, on l'avait bien aimé. Mais là, je trouve quand même que elle vient du théâtre. Certes, mais je trouve qu'elle a un sens du cadre, de la couleur, des costumes, du décor qui est quand même assez beau et qu'apporte, si ça sent le théâtre, je trouve qu'il y a une façon de montrer. Moi, je trouve que les reconstitutions historiques, elles sentent vite le renfermé et là, ça sent pas le renfermé. Là, il y a quelque chose de sauvage, il y a quelque chose de très beau. Je trouve cette chevelure rousse avec ces tenues sombres, je trouve que ça a de la gueule. Je trouve qu'il y a quelque chose de caverneux dans les décors, dans ces de minéral que je trouve assez beau. Moi, je trouve le film plutôt réussi et surtout ce que je trouve réussi dans le film, c'est qu'au-delà des intrigues de cours et du féminisme dont tu parles, ou de l'antiféminisme, de la phallocratie qui est environnante, etc., elle arrive à de dépasser les intrigues de cours et faire des enjeux humains. Je trouve que ces femmes-là, ces personnages-là, ils ont 500 ans, et ben ils sont vivants, ils sont vibrants, ils éprouvent des choses, son orgueil la perd, elle est intrépide, Marie Stuart est intrépide. Je trouve que ce sont des personnages qui restent proches de nous, alors qu'ils ont 500
proche
ans.
Proche de nous, non.
Je connais rien, moi, aux intrigues de cours. Je ne sais pas si c'est proche de la reine politique d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se passe. Eh bien, ces personnages, moi, je les trouve vivants et je les trouve vibrants et je les trouve proches de moi. Ces femmes, je les trouve proches de moi. La façon dont les hommes leur contestent le pouvoir sans arrêt, je trouve ça très fort et très vivant.
Michel.
Alors moi, j'y suis allé avec ces critiques condescendantes habituelles sur le cinéma anglais, sur les films en costume. Si, qui sont tout le temps, à chaque fois qu'il y a un film en costume, avec des gros moyens, c'est toujours les mêmes arguments.
Mais non.
Je te dis mon sentiment, et j'ai au contraire été extrêmement, extrêmement surpris, et même impressionné par ce premier film. C'est une débutante qui, effectivement, vient du théâtre, comme Wells, Visconti, Kazan et tant d'autres, ou Lozay. Ils sont tous venus du théâtre, c'est pas un handicap de venir du théâtre, et ça se voit dans la mise en scène qu'il y a un sens de la scénographie, un sens de l'espace,
du cadre,
la façon dont elle tourne dans ses décors, c'est absolument formidable, ce qui est toujours un apport des gens qui viennent du théâtre. J'ai trouvé le sujet passionnant, ça nous change de la 168e tranche de vie sociale, économique et sociale qu'on nous livre toutes les semaines. Pour une fois, s'il y a un souffle un peu shakespearien, et d'ailleurs c'est vrai que je trouve ça très supérieur à Lantinos, parce que Lantinos c'est facile, c'est une farce assez lourdingue. Ici, elle croit à ses personnages. Ces deux femmes sont absolument extraordinaires, les comédiennes sont absolument extraordinaires. Et donc j'ai pris un plaisir, je dis pas que c'est un premier film comme on n'en a jamais vu, pas du tout, mais je pense que la salle s'était plein et la salle retenait son souffle, visiblement les gens sont flattés d'être en face de grands sujets. Et je crois que malheureusement, on est en train de défendre constamment le petit sujet. Ici, il s'agit d'un grand sujet, très bien traité.
Marie Stuart de José Rourke, qu'est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ici au Théâtre de l'Alliance française? Oui, une intervention, monsieur, le micro vient vers vous.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Finalement, on finit par le commencement, puisqu'on avait vu effectivement le Lentinos, et c'était la fin des Stuarts, vous l'aviez dit monsieur Garcin. Là, c'est le commencement de la dynastie, une dynastie tragique, tout à fait shakespearienne, puisque Marie Stuart est décapitée, et c'est une dynastie qui ne connaît que révolution, renversement, retour au pouvoir et nouvelle chute. Vous avez évoqué le Brexit, je crois que c'est ça un peu le fond. Ça veut dire que l'Angleterre, la Grande-Bretagne est toujours là. André Siegfried, je crois, dans son cours au Collège de France, commençait toujours son cours par cette fameuse phrase « L'Angleterre est une île, je vous ai tout dit ». Eh ben, c'est là, on croit que la Grande-Bretagne est finie, et en fait, elle est toujours là, elle nous rappelle son passé glorieux, et je crois qu'elle le montre dans tous les actes de sa vie politique, et même de sa vie sportive, comme on vient de le voir récemment, et à notre cruelle déconfiture, oui, dans un grand match de foot qui a tourné en notre défaveur. Aussi.
Merci monsieur pour votre intervention. Stan et Holly, le premier film encore qui nous vient d'en face, donc de l'écossais John Bird, un biopic de l'anglais Stan Laurel, incarné par Steve Coogan, et de l'américain Oliver Hardy, joué par John C. Reilly. L'idée étant de saisir le légendaire couple comique en 1953, quand leur popularité décroît et qu'ils partent pour l'Angleterre, précisément, en tournée. On va voir leur amitié résister évidemment à la vieillesse, aux colères, aux problèmes de santé, aux projets annulés, aux salles à moitié pleines, aux rumeurs de séparation. Une tournée qui fut la dernière collaboration des deux héros, plutôt fatigués, puisque Lee est mort en 1957, ce qui a d'ailleurs plongé Stan dans un très très grand chagrin. Mais qu'en pensent les Laurel et Hardy Dumas? Tiens, Michel.
Alors, le seul point commun avec Marie Stuart, c'est que les deux comédiens sont formidables. Là, c'est deux hommes, il y avait deux femmes, et je les ai trouvés, John C. Reilly est méconnaissable.
Et ça se passe en Angleterre.
Dans le rôle de Hardy, et puis Steve Coogan est également formidable dans le rôle de Laurel. En dehors de ça, bon, c'est un hommage à l'amitié, c'est un film mélancolique, enfin, sur la mélancolie en tout cas, c'est un hommage à l'amitié, c'est un hommage aussi au rôle salvateur du rire, bon, tout ça est très sympathique. Je trouve le film, à part le début qui se passe en 1937 à Hollywood, où il tourne un western Way Out West, où là il y a un mouvement d'appareil, il y a une petite tentative de mise en scène. Je trouve le film assez médiocre, enfin agréable grâce aux comédiens, mais surtout, ce qui est terrible quand on fait des films, on en a fait sur Chaplin, on en a fait sur Keaton, c'est que dans ces films, on nous montre des gags sur scène, par exemple, ou reconstitués. Et alors, sur l'écran, les gens se tordent de rire, les spectateurs se tordent de rire, mais dans la salle de cinéma où nous sommes, personne ne rit. Ouais. C'est-à-dire que ce film n'a pas arraché un rire à un seul spectateur quand je l'ai vu en salle. Et donc, on peut se poser des questions.
C'est un peu le paradoxe de ce genre de biopic.
Et en même temps, j'aime beaucoup, évidemment, le personnage de Laurel, qu'il ne faut pas l'oublier, était un Anglais, qui a débuté en même temps que Charlie Chaplin, et qui est vraiment le moteur du couple. C'est lui vraiment qui écrit les scénarios. C'est intéressant, ça donne quelques idées, mais enfin, le film est quand même très anecdotique.
Sophie.
Oui, il y a des maladresses, mais bon, c'est un film charmant, quoi. C'est pas un biopic, je dirais que c'est plutôt une évocation. Si. Non, c'est pas un biopic, parce qu'un biopic, on a le sentiment, il y a une sorte
non,
de...
Non, mais c'est l'affiche de... Wikipédia sur Laurel et Hardy en 53.
Non, je trouve qu'il y a plus de charme que ça. C'est une évocation qui est assez belle de cet amour, enfin, cette amitié. Tu parles d'amitié, mais c'est plus qu'une amitié. Ils ont des scènes de ménage. Enfin, c'est vraiment Moi, j'ai trouvé qu'en effet, c'était un film très mélancolique, avec quelque chose d'une tristesse sourde comme ça, parce qu'au moment où ils sont là tout le temps pour essayer d'alléger les fardeaux du monde, et puis finalement, au moment où ils se rendent compte qu'ils ne sont que de passage sur Terre, bah, ils continuent à faire ça, ils prennent conscience de leur amour quand ils se glissent dans son lit pour le réchauffer. Moi, je trouve que c'est une scène qui est assez jolie. Je ne dis pas que c'est un grand film, mais je trouve que c'est un film qui est tendre, qui est léger, qui est mélancolique et charmant, vraiment charmant.
Eric.
C'est pas un film fait pour être drôle, hein. C'est un film qui a une très belle tristesse.
Non,
justement.
Mais c'est quand même des humoristes qui
sur scène, les gens rient comme des fous.
Mais on sait bien que les clowns tristes, ça existe.
Ça faisait rire à l'époque et beaucoup moins aujourd'hui parce que ça a été beaucoup vu, ces choses-là.
Quand on revoit les Laurel et Hardy,
comme les tartes à la crème de Léo McCarré, c'est génialissime.
C'est pas le sujet du film, là. C'est une petite parenthèse dans leur vie, cette tournée en Angleterre où ils sont un petit peu à la ramasse, hein. Ils ont plus d'argent, ils voudraient tourner un film sur Robin des Bois.
Ils ont surtout plus le même succès.
Ils ont plus le même succès, et c'est l'histoire de deux types qui n'arrivent pas à se détester. Leur amitié est trop forte, tout seul ils ne seraient rien, et ils s'en aperçoivent, et ça les désole et ça les enchante à la fois. Et il y en a un qui tombe malade, et Laurel, là, le maigre, est quand même le type qui écrivait sans arrêt dans des chambres minables, qui... tenait le duo à bout de bras, qui a même continué à écrire des sketchs pour eux deux après la mort de Hardy. C'est quand même assez beau. Et l'idée aussi de faire venir, ce qui doit être vrai, leurs deux femmes à un moment donné dans la tournée, ça apporte une espèce de vitalité et d'œil nouveau sur ce qui se passe, avec parce que ces deux comiques, ils avaient quand même pas l'œil dans la poche, puisqu'il y en a un qui a été marié 4 fois et l'autre 3. Et les deux femmes, il y en a celle de...
Elles ont l'air très
amoureuses. Il y en a une qui est une danseuse russe, qui, alors une virago qui met les pieds dans le plat. Et la femme du gros Hardy, c'est une minuscule petite souris avec une voix de crécelle qui le protège.
Tu en tires une morale, non? Non.
Non, bah, je sais pas. C'est que sans doute peut-être que la quatrième femme est la bonne. Je sais pas. Et non, mais le film est très touchant, très modeste. Et ça rend hommage à ces deux personnages que les gamins d'aujourd'hui ne doivent même plus connaître, hein, contrairement à vous.
Xavier. Moi, je suis entièrement d'accord avec Eric. C'est pas un film qui fait pour être drôle. C'est un film sur une fin de carrière, une carrière qui recommence contre tous et contre tous les avis. C'est un minable petit meneur de revue et de tournée qui va les accueillir. Ils vont aller d'hôtel un peu pourri en hôtel un petit peu mieux au fur et à mesure que le succès va revenir. La mise en scène, elle n'est pas là pour redonner à faire rire sur des gars que l'on connaît. Elle est là pour montrer, et je la trouve assez juste, même si effectivement ce n'est pas un grand film, sur la mécanique, la précision du jeu d'acteur scénique. C'est pas des gags de cinéma, ce sont des gags de scène, donc ils sont faits pour être vus de loin. Et la mise en scène découpe très bien la précision avec laquelle il fallait exécuter les choses, attendre le repère visuel, le geste, ce qu'elle allait se faire. Il y a un gag avec un œuf quand il visite son copain à l'hôpital qui est extrêmement drôle. Et c'est pas le rire, c'est vraiment montrer l'acteur au travail, avec ce corps, avec cette précision, avec cette minutie, ce côté très minuté comme ça des gags, qui rend hommage vraiment au travail de Laurel et Hardy, parce que c'est un binôme, il n'y en a pas eu tant que ça qui ont existé, et c'est plus compliqué de faire rire à deux, parce qu'il ne faut jamais voler la vedette à l'autre, il faut toujours le servir au contraire, et je trouve que le film le met en scène, le raconte avec une mélancolie poignante, et des gens qui ne se plaignent jamais, parce qu'ils ont connu quand même les sommets du succès, ils ne sont plus rien, et comment avec le plaisir aussi, un peu innocent, un peu des débutants, et ben de regagner le public, de le reconquérir, de faire rire à nouveau. Et je suis désolé, c'est pas un grand film, mais c'est pas un film à balayer d'un revers. Alors si Michel préfère les gros films ringués avec des bouquins qui se foutent sur la gueule, c'est son droit, mais je trouve que Stan et Oli vaut mieux que ce petit mépris.
Stan et Oli, des réactions sur ce film? Non. Celle que vous croyez, le film de Safi Nebbou, adapté du roman de Camille Laurence avec Juliette Binoche, Nicole Garcia et François Civil. Tiens, l'oreille d'or du Chant du Loup. Un film réalisé bien avant la polémique lancée par Yann Moix, qui se dit incapable, vous le savez, d'aimer une femme de 50 ans. Donc, dans ses liaisons dangereuses 2.0, Claire, c'est donc Juliette Binoche, est prof de lettres, elle est quinquagénaire, et après que son amant l'a larguée, ben elle s'invente sur les réseaux sociaux un profil aguichant, une plastique avantageuse, et surtout une nouvelle jeunesse, puisqu'elle devient Clara et qu'elle a 24 ans. Elle ne tarde pas à attraper sur la toile Alex, c'est donc François Civil, qui est photographe, qui pourrait être son fils, et qui se trouve être le meilleur ami de l'amant infidèle. Et donc la fausse Claire et le vrai Alex vont filer le parfait amour virtuel jusqu'au jour où, au contact de la réalité, les jeux de l'amour vont devenir forcément très cruels. Un film, donc je le disais, tiré du roman de Camille Laurence, et un rôle, il faut dire, taillé pour Juliette Binoche, que pour ma part, cher Yann Moix, j'ai trouvé beaucoup plus belle et plus émouvante que son avatar Facebook. Sophie.
J'aime beaucoup le film. Je trouve qu'il a un grand sens du romanesque. C'est adapté d'un roman, donc évidemment c'est romanesque. Mais Safi Nebbou, il aime beaucoup le romanesque. Il joue très bien, je trouve, avec le romanesque. Il
arrive. Surtout, c'est plus machiavélique que l'était le roman.
Oui, tout à fait. Et en plus, c'est très juste. Enfin, à la fois, il en fait quelque chose de très ludique. Parce que malgré tout, c'est un sujet qui est douloureux. Hein. Il aborde des choses qui sont très très douloureuses. Il en fait quelque chose de très jouissif pour le spectateur. Hein. Il le prend au piège comme ça, d'un rapport entre la fiction, d'un vertige comme ça, d'une spirale. Et il joue avec le film de genre, ce qui fait que Juliette Binoche est un très beau personnage parce qu'elle pourrait sortir d'un film de genre. C'est un personnage qui est à la fois très fragile, très cabossé, et en même temps qui a de la ressource, et en même temps qui a la force de trouver les conditions de sa survie. Donc c'est un personnage derrière lequel on peut, qui nous permet de toucher à nos terreurs les plus intimes. Et là, hommes et femmes, ce qui est plus fort, je trouve aussi dans le film, c'est que, enfin plus fort, en tout cas, ça dépasse le fait de la femme de 50 ans qui a peur de vieillir. C'est vraiment un film qui s'adresse.
C'est quand même le thème.
Bien sûr, parce que c'est un personnage de femme et qu'en effet, c'est le thème initial. Mais ce qui est beau dans le film, c'est qu'il va plus loin et qu'à travers ce personnage qui est finalement archétypal tout en étant complexe, ça touche à l'humanité. C'est-à-dire que c'est des peurs qui touchent aussi les hommes. D'ailleurs, les hommes aussi sont fragiles dans le film. Et la fragilité, c'est un film sur la solitude et sur la fragilité des femmes de 50 ans peut-être. Ah, moi, je trouve que c'est aussi un film sur la fragilité des hommes. Et ce qui est peut-être encore plus troublant dans le film, et encore plus vertigineux, c'est qu'il montre très bien comment l'amour, au fond, est une pure construction de l'esprit, est un pur fantasme. Alors, bien sûr, Facebook facilite le fait qu'on puisse se mettre à s'enflammer pour quelqu'un qui n'existe pas. Mais en même temps, ça renchérit sur l'idée que l'amour n'est qu'une construction. L'amour, au fond, est un pari fait sur ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît jamais celui qu'on aime. D'ailleurs, l'absence de la passion, enfin, François Civil, et c'est pour ça que c'est aussi un film sur les hommes, François Civil éprouve une passion qui est entretenue par l'absence, par le manque, et c'est ça qui le rend fou.
Dans le film, on le voit pas beaucoup, on le voit un peu à
bien
la
sûr
fin,
que tout tourne autour de Juliette Binoche
tu as l'air de minimiser le rôle. Enfin bon, c'est
non,
ton
je
droit,
le minimise pas. En plus, je trouve que Nicole Garcia et Juliette Binoche forment un duo.
Nicole Garcia, c'est la psy.
C'est la psy, puisque comme elle est cabossée.
Moi, je lui raconterai tout, hein, parce qu'elle est formidable dans ce rôle.
Elle est formidable, mais toutes les deux se renvoient la balle de manière extrêmement subtile.
Je suis entièrement d'accord avec Sophie. J'aurais presque rien à rajouter. Je trouve que c'est un film absolument remarquablement écrit. Safine Debout est capable de donner du cinéma à des choses qui appartiendraient plutôt au roman, c'est-à-dire au papier, où on peut écrire l'intime, où on peut donner des mots, justement, au ressenti au cinéma. Il faut donner du corps, il faut donner du réalisme, il faut donner du concret. Et généralement, ça passe par le dialogue et c'est casse-gueule. Chez Safine Debout, ça passe toujours par le cinéma. C'était le cas dans Les Plaines de Sibérie, d'après Sylvain Tesson. C'était le cas dans L'Empreinte, ce film un peu étrange, comme ça, où une femme était convaincue que son enfant, qui lui avait été annoncé comme mort à la maternité, était en fait la petite fille qu'elle croisait un goûter, d'anniversaire. Donc, c'est des choses qui mériteraient le mot et auxquelles, vraiment, à chaque fois, Safine Debout donne du cinéma. Et Sophie a raison, c'est un film qui a plusieurs niveaux. Il peut être cruel la première fois que
Il est très cruel.
Qu'elle va le voir à la gare, François Civil, et qu'il ne la remarque même
c'est
pas. Et qu'elle fait tout pour attirer son regard et qu'il lui est totalement indifférent.
Ah, ça, c'est presque la fin du film. Hein.
Ah ben non, c'est au début.
Non, pas du tout. Ah non.
C'est au milieu. Ben non.
C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie.
Mais bon. On peut le dire. Bon, d'accord. Et il y a un moment aussi où c'est extrêmement drôle, elle est au téléphone, ses deux gamins sont devant l'école, oui, et elle ne peut pas raccrocher à son amant puisqu'il est censé ignorer ses deux enfants. Donc elle fait des tours sur elle-même devant les deux gamins totalement abasourdis en se disant « Maman est devenue complètement folle ». Et trouver cet équilibre constant mais synergique entre la cruauté, l'humour, le désespoir, la mélancolie, parce que c'est très violent, on sait que cette femme est suivie par un psy, qu'elle a vécu un trauma dont on va découvrir peu à peu les raisons d'être. Il y a même du polar. C'est-à-dire que moi, j'ai passé mon temps à jouer avec le film. C'est-à-dire, je me suis dit, la chronologie. Ah ouais, donc, si elle rencontre Nicole Garcia au moment où elle apprend ça, alors peut-être que. Donc, c'est un film qui est constamment à plusieurs niveaux. Et Sophie a raison. C'est un film qui renvoie la mélancolie et les terreurs féminines et masculines dos à dos de manière extrêmement intéressante.
Éric.
Ben, on peut dire que Juliette Binoche aime les sports extrêmes parce qu'elle a déjà incarné Christine Angot dans un film de Claire Denis. Et puis là, elle joue dans un roman de Camille Laurence. Alors, elle est costaud. Là. Ou alors, elle est maso. Parce que moi, j'ai trouvé le film absolument épouvantable. Aucun intérêt, là.
C'est pas vrai.
Ah, mais d'une balourdise, d'un téléphoné. Mais c'est un film que je vais enregistrer, acheter en DVD. Et je vais faire des soirées, repas avec des copains parce que c'est.
Mais t'exagères.
Mais c'est
n'importe quoi.
Ah non, mais c'est hallucinant. Alors, c'est plein.
Mais t'as pas de copains en plus.
Arrête. J'en ai plein.
Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, tu vis comme nous, misérablement et solitaire.
C'est plein de chochoterie, évidemment.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'épouvantable dans ce film?
Ah, mais c'est
lourd. Éric, non, je te conseille, échange. Prends un film de Bernard-Henri Lévy, par exemple.
Oui, par exemple.
Avec des copains pour se marier.
Je l'ai déjà fait.
Voilà. Mais vraiment,
non,
là,
c'est un juste. Juliette Binoche, elle est prof de lettres. Évidemment, au cas où on n'aurait pas compris, elle est spécialiste de la clo. Alors, c'est les liaisons dangereuses
mais
sur
ça,
Facebook.
C'est une allusion dans le film.
Ah, mais non, c'est rien. Tout est comme ça. C'est pas si bien filmé que ça. Je suis désolé, Xavier. Il y a un moment, une scène où elle monte l'escalier roulant de Beaubourg. Elle
c'est là qu'elle va apprendre le pire.
Et la caméra s'envole dans le ciel. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Et alors, c'est.
Avec un drone, alors, tu mets la caméra sur le drone.
Moi, je plains la pauvre Nicole Garcia qui était obligée d'écouter ces salades, là, parce que on la regarde et on se dit qu'est-ce qu'elle fait,
elle est médecin,
elle lutte contre le sommeil ou elle pense au prochain film qu'elle va tourner,
elle est comme ça.
Et alors on entend des phrases comme il n'y a pas de pire rival que celle qui n'existe pas. bon, bah, je ramasse les copies dans
ben
deux
non, mais
heures.
C'est super
là,
beau. C'est... Ben, ouais, mais... si tu non, la comprends pas, cette phrase est... lyrique, c'est grave.
Pseudo-littéraire,
hein,
effroi, bête à sous. Et puis j'oubliais, parce qu'elle écrit un livre aussi. Il nous manquait plus que ça. Ben, ce livre-là, je ne vais pas l'acheter. Non, et je comprends.
Tu l'as soit gratuitement
moi,
par l'office de presse.
Je ne veux
plus.
Pas voir des films sur les femmes de 50 ans, sauf si c'est joué par Juliette Binoche, qui, depuis deux films, m'a réconcilié avec elle depuis le Assayas, c'est là-dedans. Les lunettes lui vont à merveille et elle est belle comme tout.
Ah là là, Michel.
Non, moi je ne vais pas ajouter grand-chose à ce que dit Sophie et Xavier, parce que j'ai trouvé le film également très intéressant. D'abord, c'est rare dans le cinéma français qu'on aborde justement Facebook et les nouvelles images.
Mais c'est assommant ça dans tous les films, les écrans, les tweets.
Bon, d'accord. Je trouve aussi que esthétiquement le film a une grande cohérence visuelle parce que c'est un film qui a une certaine ambition, très épuré. Je trouve le travail sur les décors, le travail sur les couleurs, etc., est très sobre et en même temps très travaillé. Et je trouve que Binoche, qui a fait des débuts exceptionnels comme actrice, on a traversé une période où elle s'est un peu perdue et depuis 4-5 ans, je la trouve extraordinaire. Je trouve qu'elle elle irradie. Et
contrairement, encore une fois, à son avatar.
Oui, tout à fait. Hein, elle est 10 fois plus belle.
Une sorte de playmate qui m'a rappelé les émissions de Colaro d'autrefois. Quoi. C'est... Non, vous trouvez.
Tu regardais le Colaro
une coco girl,
pas
une playmate.
Sur cette
voilà,
jeune femme.
Pour,
mais enfin,
pour
bon.
Toutes ces raisons, j'encourage à voir ce film.
Celle que vous croyez, c'est Safie Nebout. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui, sur ce film. Le micro vient vers vous. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas de cinéma. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les metteurs en scène maintenant ont intégré le fait que les films vont être vus sur des tablettes. Je n'ai vu que des champs et des contre-champs, des gros plans sur Binoche. Et je me suis amusé à un moment à fermer les yeux. Il n'y a que du baratin, mais il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'image.
Merci pour votre intervention sincère. Personne d'autre sur ce film. Le mystère Henri Pic, le film de Rémy Besançon, tiré cette fois d'un roman de David Fuenquinos, l'ami du masque, avec Fabrice Lucchini, Camille Cotin, Alice Isaaz. Le film commence sur le plateau télé d'une émission littéraire, style apostrophe ou La Grande Librairie. Son animateur, eh bien, c'est Fabrice Lucchini, alias Jean-Michel Rouche. Et ce soir-là, bah, il voit Rouche, puisqu'il reçoit la veuve, qui est joué par Josiane Stoleru, de Henri Pic, un pizzaiolo breton qui a laissé, avant de mourir, paraît-il, un roman génial que Grincet, d'ailleurs, a publié avec beaucoup de succès. Voilà. Mais Rouche, lui, il est convaincu que feu Henri Pic ne peut pas être l'auteur de ce livre. Donc, il est viré de la télé, il est quitté par sa femme et il part enquêter à Crozon, où habitait Henri Pic et où vit sa fille, incarnée par Camille Cotin. Et où se trouve la bibliothèque des manuscrits refusés, d'où est sorti donc ce fameux et prétendu chef-d'œuvre. Voilà, un film un de plus après Double vie d'Assayas, sur le monde de l'édition et sur la fabrique du succès, où Lucchini tient à la fois de Maigret et de Pivot, ce qui lui ressemble bien. Ça, Eric, qu'en as-tu pensé?
Ah, il faut aimer les pizzaiolo bretons, hein. C'est un concept, un créneau. Je sais pas ce qu'il met dans sa pizza, le gars. Des coquilles d'huîtres ou des moules ou du poisson pas frais, parce que le film est vraiment tarte, hein, lui. C'est terrible, ça. Les cinq premières minutes sont assez justes, là. L'émission de télévision, contrairement à ce qui se passe tout le temps au cinéma, quand un metteur en scène reconstitue une émission de télévision ou des informations, ça sonne toujours faux. Alors que là, il se passe quelque chose et Lucchini jubile, le ton est juste. En revanche, évidemment, il y a une deuxième émission un petit peu plus tard qui est complètement foireuse, qui sonne absolument pas comme il faudrait. Et le film, ça tient grâce à Lucchini, qui s'est fait la barbe de François Bunel et qui a toujours dans l'œil une espèce de malice. On sent qu'il est prêt à sourire, l'air de dire, vous savez, moi, au théâtre, je joue Céline, Peggy, Cioran. Bon, là, on m'a filé Fuenquinos. Et on voit qu'il a envie de dire, je l'ai pas lu, hein, je l'ai pas lu. Et le film est bien idiot, bien oui au pays de l'édition.
Mais tu trouves pas qu'il est formidablement heureux dans ce film, Lucchini?
Ah bah, il doit être heureux parce qu'il a le chèque de la Gaumont à la fin.
Non.
Hein,
Mais
c'est le seul acteur qui fasse des entrées en France et il est toujours très bien, Lucchini. Mais il est pas dupe, visiblement, parce que l'histoire ne tient pas du tout debout, là. Ce manuscrit qu'on a trouvé dans le musée des romans refusés. Moi, le film, il faudrait créer une médiathèque des films qu'on qu'on n'aurait jamais dû tourner pour ça.
Non, mais le, c'est vraiment l'espace, hein. Ouais, même avec les DVD, ça va prendre beaucoup de place. Hein.
C'est le mauvais cinéma français, paresseux, plat.
Xavier,
je pense que le monsieur tout à l'heure qui démontait le Staffy Nebout voulait en fait parler du mystère Henri Pic. Il a dû se tromper à un moment ou à un autre dans la chronologie de son intervention. Parce que alors voilà vraiment, et j'aime plutôt bien le cinéma de Rémy Besançon qui a au moins une petite délicatesse, mais je ne sais pas dans quel était le roman, enfin à quoi ressemblait le roman de Fuenquinos. Mais si au moins on avait simplement cette espèce d'Hercule Pivot là qui mène l'enquête et qui va voir
c'est le cas,
si...
C'est le cas.
Ah ben non, parce qu'on a l'intrigue de la jeune fille qui a édité le roman.
Hercule Pivot ou Hercule Poirot.
T'as aussi le roman du roman.
Hercule Pivot, c'est une. J'ai condensé Hercule Poirot et Bernard Pivot. C'est mon deuxième jeu de mots, Michel. J'en avais préparé.
Bon.
Vous êtes pas obligé de les foirer tous ce soir.
Ah non, mais c'est les deux
arts. Corporate. Mais on a l'intrigue de la jeune fille qui a découvert le manuscrit. On essaie de donner du. La crédibilité
du réalisme. C'est ce qui va expliquer la fin de...
Ça, tu pouvais aller vite. Et puis
suspense.
Le petit copain qui essaie de rencontrer Lucchini pour avoir son avis sur son premier roman et qui voudrait être... Ça n'a aucun intérêt. On se perd dans les méandres d'une enquête dont on se fout au bout de 10 minutes. Mais qui l'a écrit? Un pizzaïolo, un marin, personne, un ordinateur, on s'en cogne. Il n'y a aucun enjeu, à part effectivement voir Lucchini faire son numéro. En poussant toujours un tout petit peu les comédiens en bord cadre, hein, vous êtes gentils mes enfants,
ben,
mais
heureusement.
Le statut de vedette c'est moi qui l'ai, et j'ai l'impression qu'il a bouffé Besançon, il bouge Josiane Stolleru qui est une actrice formidable, mais la scène ne fonctionne pas.
Camille Cotin... Elle joue le rôle de la veuve depuis qu'elle peut pas avoir un grand rôle non plus dans ce film, tu vois ce que je veux dire?
Mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est pas la peine de défendre comme
c'est
ça.
C'est injuste comme attaque.
Mais j'ai le droit d'être injuste dans mes attaques de mauvaise foi, depuis quand il faut être honnête dans cette émission? C'est nouveau ça, alors là on va pas expliquer les nouvelles règles. T'es gentil, mais tu envoies une note quand même, un petit mail, donc c'est quand même dingue. Enfin voilà, je trouve qu'il phagocyte, il aspire, il pousse, comme d'habitude, il est tout seul. Et il y a un moment, moi j'ai l'impression que ce jeu en roue libre, j'en ai un peu ras-le-bol.
Michel,
bah, il faut dire que j'ai jamais été fou des intrigues genre Agatha Christie. Ça m'a toujours, hein, sauf quand c'est Pascal Thomas avec son couple formidable... qui m'avait assez diverti, mais le whodunit, enfin, réduit à une sorte de jeu comme ça, purement cérébral, m'a jamais enthousiasmé. Alors, évidemment, le film, c'est vrai, repose entièrement sur Lucchini, qui est tout à fait formidable, mais au bout d'un certain temps, si c'était Mankiewicz, peut-être, dans Le Limier, Mankiewicz est capable de filmer des dialogues et des intrigues comme ça, de façon sublime, mais là, on est tout de même, c'est tristounet comme cinéma, et je suis d'accord avec Xavier, je crois, l'intervention précédente sur le film de Debout,
c'était
plutôt sur ce film-là.
Sophie.
Je crois qu'il faut être court, hein. Alors oui. Je vais dire
parce que...
Oui, mais je n'ai rien à dire sur ce film que je trouve parfaitement insignifiant, sans intérêt. Il ne dit rien sur rien, il est fabriqué, il est artificiel. Alors l'idée de départ est peut-être une idée charmante, hein, cette idée d'un manuscrit abandonné comme ça, qui, comme une princesse, attendrait d'être réveillée. Je trouve que c'est une jolie idée d'écrivain, sauf que ça donne absolument rien dans le film, qui ne dit rien sur rien, ni sur l'édition, ni sur la lecture, ni sur les pizzaïolos, ni sur la Bretagne.
Eh bien, c'est ce qui reste du mystère Henri Pic, au masque et la plume, le film de Rémy Besançon. Pas de réaction sur ce film. Non, allez, on parle des Éternels maintenant. Effectivement, il ne reste pas beaucoup de temps. Le 12e long métrage du chinois Yazanke, polar tendance mélo, alors là, de 2h16, qui était en compétition à Cannes, qui est revenu bredouille avec la toujours belle Zhao Tao et Fan Liao. Ça commence en 2001 à Datong, dans le nord de la Chine, quand les mines commencent à fermer, et Qiao, c'est donc Zhao Tao, dont le père travaillait à la mine, en pince pour Bin, qui est le chef de la pègre locale, qui est joué par Fan Liao. Et un soir, Bin est tabassé par une bande rivale, elle lui sauve la vie en sortant un revolver. C'est d'ailleurs la photo qui fait la une de positif. Résultat, elle écope de 5 ans de tôle. Et à sa sortie, elle découvre que Bin l'a remplacé et a refait sa vie. Alors après, elle va régner sur un établissement de jeu. On vous dit pas comment et dans quel état les amants d'autrefois vont se retrouver. Il y a un côté un peu Scorsese asiatique, je trouve, dans ce film, avec évidemment la virtuosité et le brillant qu'on connaît à Yazanke. Michel?
Pour moi, c'est le grand film de cette quinzaine, et même plus que de cette quinzaine. C'est vrai que Zhao Tao, c'est la 8e fois qu'elle tourne avec son mari Jiazhenke, elle est immense comme comédienne, qu'un jury l'ait complètement ignorée à Cannes pour une actrice kazakh qui ne faisait que souffrir sur l'écran pendant 2 heures. C'est hallucinant d'aveuglement. Enfin, c'était pas le seul prix, absence
ouais,
de prix scandaleux.
Spécial, hein.
Non, ce qui est très beau dans le film, comme tous les films de Jiazhenke, c'est l'ampleur du récit. C'est-à-dire, c'est vraiment 20 ans, c'est-à-dire ce que fait le temps sur des gens, l'usure du temps. C'est également des paysages qu'il filme avec une formidable sensibilité. Moi, c'est un mouvement perpétuel. Il y a des scènes formidables, la scène du train, par exemple, tout ce qui peut se passer dans un train avec des rencontres de gens qu'on ne connaît pas et tout ça.
Et puis on voit aussi, je trouve, ce qu'est la Chine gagnée par le capitalisme.
Voilà, c'est la mutation.
Gangrenée par le libéralisme, c'est quand même très frappant, je trouve.
C'est des mutations.
En 10 ans, on voit ce pays se métamorphoser sous nos yeux. Hein.
Oui, c'est toute l'histoire de la Chine qu'il nous raconte, et en même temps des histoires d'êtres humains, de cet amour entre ces deux êtres qui s'aiment, qui sont séparés, il va en prison, etc. Donc c'est un film, moi je pense, universel. C'est pas du tout un film chinois, c'est un film universel.
Sophie.
Oui, c'est très beau.
C'est quand même un film chinois.
C'est un film chinois,
ça. Aussi, mais
qui est très beau et qui en même temps s'ouvre, me semble-t-il, plus lentement que les précédents. Enfin, je veux dire qu'il est peut-être plus difficile. Still Life, c'était un choc. Au-delà des montagnes, Touch of Sin, c'était des très grands films. Là, c'est un peu un film entre les deux, je trouve. Hein, qui est, et d'ailleurs, c'est un film sur la pègre et sur la marche. Donc, il est un petit peu en filigrane comme ça. En même temps, il y a une scène qui se répète, qui est magnifique, quand ils sont près du volcan, où elle dit cette phrase qui a servi, je crois d'ailleurs, pour le titre original, « Rien n'est plus pur que la cendre d'un volcan ». Et c'est vrai qu'à la fin du film, tout à coup, cette phrase devient la clé du film. On comprend qu'elle... Enfin, ça peut parler de son amour, ça peut parler... Tout à coup, cette phrase devient métaphorique et donne une dimension au film qui est un magnifique portrait et de la Chine et de cette femme.
Xavier.
C'est un immense metteur en scène, c'est un grand film. Et pourtant, je suis un peu déçu par ce Jiazhenke. J'ai l'impression que là, il se répète un tout petit peu. C'est le premier film de Jiazhenke qui ne me surprend pas formellement, qui ne m'apporte pas quelque chose de nouveau à son cinéma. Alors effectivement, le film est impeccable. Je recommande vraiment à tous les auditeurs d'aller se précipiter voir cette fresque émouvante, bouleversante, politique, esthétique. Il s'est magnifiquement raconté cette histoire. Mais j'ai l'impression que on se souvient des Pet Shop Boys qui ouvraient, Au-delà des montagnes. Là, on a les Village People et YMCA. J'ai l'impression qu'ils recyclent un tout petit peu dans Touch of Sin. Ils regardaient un film de Tsui-Hark. Là, on les voit regarder un film de John Woo. Ils récupèrent un tout petit peu quelques-unes de ces ficelles précédentes pour un film plus lisse qui aurait, à mon avis, effectivement, pu tout à fait être une palme d'or ou un grand prix du jury cette année parce que le film est très réussi, mais qui n'a pas cette âpreté, cette originalité, cette audace formelle dont il est capable et dont je sais qu'il sera encore capable. Grand film, mais une légère déception.
Eric.
Ah, c'est très beau. Comme tu l'as dit, c'est du Scorsese, mais c'est un Scorsese qui aurait croisé Henry James ou Lou Proust parce que c'est vraiment un film sur le temps qui passe, sur les sentiments qui s'effacent, sur quelqu'un qui aime une personne qui peut-être n'était pas son genre, comme dans Proust. Et cette fille est fabuleuse, là, avec cet amour qui dure. Et il y a un côté presque, la fin de l'éducation sentimentale de Flaubert, c'est... Elle voyagea, elle prit des trains, des bateaux, et dans le train, elle rencontre un agent de voyage qui croit aux extraterrestres, et il y a une séquence magique. Ensuite, on voit une soucoupe volante dans la nuit. En bateau, elle longe toutes ces villes qui vont être englouties par les eaux d'un barrage qu'on va construire. Et les sentiments, c'est la même chose. Ils vont être engloutis. Le temps va en faire de la poussière ou de la cendre.
La cendre du volcan, justement.
Et c'est un film très, très beau sur les amours ratées dont on sait bien qu'elles auraient pu réussir. C'est violent, c'est touchant, c'est très beau, très esthétique. Et il y a des scènes où elle pousse un fauteuil roulant avec son amant dedans dans un stade en construction. Non, tout est bien dans ce film. Moi, c'est le film de Jiazhenke que je préfère.
Les Éternels, donc, de Jiazhenke. Pas de réaction sur ce film. Les Étendues Imaginaires, le premier film du Singapourien Yeo Siu Hua. Pardon si je le prononce mal. Rien que le décor de ce film fait rêver ou cauchemarder. Un immense chantier d'aménagement du littoral à Singapour, sur lequel travaillent donc des ouvriers chinois, et où le sable, il y a une scène d'ailleurs incroyable dans le film, le sable est importé de tous les pays voisins, Malaisie, Thaïlande, etc. Et c'est là que l'inspecteur Locke enquête sur la disparition d'un immigré chinois qui était chargé de véhiculer les ouvriers du chantier, et il finit, l'inspecteur, par trouver sa trace virtuelle dans un cybercafé de la ville. Un polar qui, du point de vue du suspense, n'est pas révolutionnaire, mais à l'image, totalement bluffante, et de manière très lynchienne qu'a ce cinéaste d'avancer en équilibre entre le réel et l'imaginaire, ce qui est le cas d'ailleurs de ce Singapour, hein, qui est vraiment à la fois ensablé et hors sol. Dites-moi très vite si vous le conseillez, Eric.
Ce sont des gens qui n'arrivent pas à dormir, et il y a un grand mystère là-dedans, c'est comment un film sur des insomniaques peut être aussi soporifique. C'est... je n'ai rien compris dans ce film. Rien. Oh bah, je l'ai vu deux fois. Non, là, je n'ai toujours rien compris parce que dans la première, je croyais qu'il remplissait des vides avec du creux et je me suis aperçu qu'il remplissait des creux avec du vide dans la deuxième. Non, c'est une pseudo-enquête sur un chauffeur qui a le bras cassé, qui a disparu. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que le policier a rêvé cette histoire, puis ensuite que c'est l'ouvrier qui a rêvé qu'il était le policier. Il y a une histoire de cybercafé dont on ne comprend pas ce que ça vient faire. C'est assez beau.
Mais s'il était tout le temps, Wang, l'ouvrier, oui, mais bon, tout le temps dans ce cybercafé.
Tout est mélangé, on s'en fout complètement.
Trop rationaliste.
C'est assez beau, parce qu'on voit cette ville grouillante où il pleut la nuit, comme dans Blade Runner. Là, on se dit, puis tout d'un coup, il filme de l'autre côté de la mer des lumières d'usine. Et là, on se dit, mais c'est du Benex. Et ce film, c'est La Lune dans le caniveau, sauce asiatique.
Michel ?
Non, alors, il faut dire que Jia Zhangke, qui était président du jury à Locarno, a donné le Léopard d'or à ce film.
Il a dû dormir.
C'est-à-dire le grand metteur en scène qui adoube un jeune confrère chinois comme lui, de la diaspora chinoise. Et je trouve que le film est a des choses très proches dans ce cinéma asiatique, c'est-à-dire le mélange de l'onirique et du réel. C'est à la fois une étude socio-économique sur ces travailleurs qui travaillent dans des conditions épouvantables pour étendre la superficie de Singapour. C'est en même temps un film sur le rêve, sur le monde du rêve, et c'est aussi
et sur
des univers virtuels. Et alors, ce qui est très beau aussi, c'est que le jour est très terne. Toutes les journées en plein jour sont très ternes. Et par contre, les nuits sont chaudes et colorées. Et le contraste entre les nuits et les jours, c'est une des plus grandes beautés du film, qui visuellement est tout même étonnant. Va le revoir une troisième fois, Eric.
Oh non.
Xavier.
En deux mots, moi je trouve que c'est un des meilleurs films quand même depuis quelque temps. C'est une grande surprise, une grande découverte. C'est un polar, c'est un film social. Donc c'est
mais c'est vrai qu'il ne faut pas partir du principe qu'on y va pour l'intrigue du polar.
Non, c'est
pas
ça l'essentiel. Mais ce sont des gens quand même qui demandent du rationnel, du cartésien, hein, une enquête policière ou un film social, ce sont des réalités. Et il va prendre, mais vraiment l'opposé pour les traiter, c'est-à-dire l'onirisme, le surréalisme, l'étrangeté. C'est un film constamment étrange, constamment effectivement intéressant, intrigant. On le suit, on se perd dans les méandres de ce film et en même temps on retombe toujours sur ses pas. Ce que ça dit effectivement sur Singapour, Michel l'a très bien explicité, et d'une force politique, c'est une ville particulière, au pouvoir politique particulier. C'est quand même mis là et en même temps c'est un film... Ouais, étrange, vaporeux, intrigant, hypnotique. Moi, j'ai adoré ça.
Sophie ?
J'ai adoré ça aussi, je trouve ça très 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 beau. En effet, bon, comme tu le dis, Singapour est en soi une apparition, c'est un songe. Traiter d'une réalité sociale à travers un songe, il faut le faire. C'est une élégie, c'est aussi un film noir, c'est magnifique.
Les étendues imaginaires, donc le premier film de Yeo Siu Hua, qui est donc singapourien. Et vous me dites s'il faut ou pas aller voir Exfiltré d'Emmanuel Hamon, avec une jolie distribution derrière Swan Arlo. Finnegan Oldfield, Jiska Kalvanda et Charles Berling. Et ça se passe, enfin, c'est encore un film, je dirais, sur ces femmes qui sont converties à l'islam et qui partent pour Raqqa. Sophie.
Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans le film, des problèmes de crédibilité, des problèmes de narration, des problèmes de personnages. La crédibilité, c'est une histoire vraie et pourtant on n'y croit pas toujours.
On voit que lui vient du documentaire.
Il vient du documentaire, mais je pense qu'il manque de regard. Il veut faire un film de genre et à travers ce film de genre, dire beaucoup de choses sur le monde d'aujourd'hui, qui est un monde atomisé comme ça, et sur la jeunesse d'aujourd'hui. C'est très bien, sauf que même pour un film de genre, il faut avoir un regard, il faut avoir un point de vue. Et je trouve que le film manque singulièrement de point de vue. Alors déjà qu'on ne peut pas tellement s'identifier au personnage de Faustine, qui part un peu sur un coup de tête comme ça. Bon, elle explique vaguement qu'elle veut aider.
Avec le gamin de 5 ans.
Mais avec son gamin, laissant son mari et tout. Bon, alors déjà qu'on ne peut pas s'identifier à ça, on ne peut pas se raccrocher à quelque chose d'un peu, d'une armature, un ciment, Michel. Si on ne peut pas se raccrocher à ça, on n'a pas d'ampleur, on n'a pas de lyrisme, on n'a pas d'héroïsme, alors on n'a plus rien, quoi. Et c'est le regard qui manque.
Michel.
Non, moi, j'ai été toi-même assez frappé par la qualité, justement, pseudo-documentaire du film, sur un sujet. Pas traité vraiment, c'est-à-dire que...
Ah si, j'y suis très souvent.
Pas vraiment.
Mais tu trouves pas qu'il manque d'ampleur, hein.
Les gens prisonniers de Daesh, par exemple, la réconstitution en Syrie c'est pas en Syrie, mais ailleurs, mais on y croit vraiment. La seule chose qui m'embête, c'est que le point de départ du film n'est pas explicité. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir pourquoi une Zaïroise ou une femme d'Afrique, mariée, avec un enfant, etc., décide d'aller retrouver Daesh, d'aller retrouver ses meurtriers, ses personnages épouvantables. Qu'est-ce qui la pousse à ça? Alors, c'est ça qui m'intéresserait. Et c'est pas du tout traité, c'est ce qui est le plus mystérieux dans le film.
On n'aura même pas le temps de donner des conseils, Eric.
Bah, il faut que le gouvernement vote une loi pour interdire les films sur le retour des djihadistes, parce que s'ils doivent être comme ça, c'est pas la peine.
Xavier... Non, moi je suis d'accord avec Michel, je trouve que c'est plutôt une bonne surprise. Il y a un sens du documentaire, une sécheresse dans le traitement, et je le recommande vraiment volontiers.
Exfiltré, donc Emmanuel Hamon. Allez, un conseil pour finir cette émission. On va commencer avec Sophie.
Alors, je pense que Eric va avoir le même conseil que moi, mais ça fait rien. On n'est pas trop deux pour recommander ce film qui est extraordinaire, La Flore, qui est un film de 13h34 qui sera présenté.
Je l'ai pas vu deux fois encore.
13h34, c'est fou, il est montré en quatre parties, en quatre mercredis, on m'a dit quasiment successifs.
Oui, parce que le générique de fin dure 40 minutes. Oui,
c'est ça.
Mais c'est vrai.
Mais c'est vrai en plus. 13h34,
et il est magnifique.
C'est un film absolument extraordinaire. Alors, je crois même pas avoir dit de qui c'était. C'est de Mariano Linés, qui est un réalisateur argentin. C'est impossible à résumer, c'est impossible. C'est pas une série, ça se suit pas vraiment, ça fait écho sans faire une série. C'est quatre actrices qu'on retrouve chaque fois dans des personnages différents, des histoires différentes. Ça parle de l'amour, ça parle de la chanson, ça parle de la trahison, par des agents secrets.
Non,
justement, c'est ce que je suis en train de te dire, ça se suit pas. On peut même le prendre en cours de route, ce film. C'est ça qui est formidable. Donc, vous pouvez y aller même le deuxième mercredi, ou même si, évidemment, à la fin, ça se recoupe.
Tu veux dire que c'est projeté en quatre séances différentes?
Quatre mercredis différents. Mercredi dernier, première partie.
Mais si on veut voir les 14 heures d'un...
Il faut attendre dans un mois.
Il faut attendre le 27 mars où les quatre films seront à l'écran.
Voilà.
D'accord.
De toute façon, je laisse Eric prendre la suite, mais c'est un film extraordinaire.
C'est un film d'une liberté, d'une invention, d'un génie. Le type se croit tout permis et il a raison. C'est vraiment une ode au cinéma. Ces quatre actrices sont prodigieuses et, bizarrement, on sort de là dans un état totalement cotonneux, parce que moi, je l'ai vu en
deux. Et de joie aussi. Hein,
et on n'a pas vu le temps passer. Et c'est vraiment un bonheur pur et ça réconcilie avec le 7e art qui mérite pour une fois cette appellation.
Xavier.
Ah oui, moi j'adore, je suis comme mes petits camarades, j'ai été enthousiaste.
Ah, emballé.
Ah mais oui, non, j'en ai un autre. Allez. Mais vraiment, moi ça m'a...
Un film de 28 heures.
Mais voilà.
Donc, alors, un autre conseil.
Mon conseil m'a toujours dans le cinéma chinois, ressorti dans un coffret absolument magnifique d'une copie superbe de Time and Tide de Tsui-Hark, un film de l'an 2000, sans doute un des meilleurs polars hongkongais faits à cette époque-là. Tsui-Hark est au sommet de son talent et ça ressort chez Carlotta, une édition sublime avec des bonus, avec plein de suppléments et le film de Tsui-Hark qui n'a pas pris une ride et qui reste à ce jour un de ses meilleurs gunfights.
Moi, j'ai un conseil qui est un film très différent, mais que je trouve formidable, qui s'appelle Nos vies formidables, de Fabienne Godet, qui raconte qui est un film de fiction, mais qui ressemble un peu à un documentaire, et qui raconte l'entrée dans un centre d'addictologie d'une jeune femme d'une trentaine d'années, qui est très mal en point. Et je trouve que ce qui est incroyable dans ce film, c'est qu'évidemment, on a le sentiment vraiment d'être dans un documentaire, mais cette comédienne Julie Mouvier est absolument incroyable. Moi, je suis très ému par Nos vies formidables, qui ne durent malheureusement qu'une heure quarante, je crois. Donc, j'ai un peu honte de
conseiller. Mais...
Et Michel, pour finir.
Alors oui, j'apporterai tout ce que vous avez dit sur ce film de 14 ans, c'est très, très vrai. Mais c'est le documentaire de Bruce Weber, qui est un photographe, sur Mitchum. Alors, c'est pas que c'est un grand documentaire, mais c'est tout de même le mystère Mitchum, un acteur fabuleux qui a tourné au moins une quinzaine de chefs-d'œuvre. Nice Girls Don't Stay for Breakfast, les braves filles ne restent pas pour le petit déjeuner. Alors, c'est vraiment le contraire de Me Too. On voit un Mitchum qui séduit toutes les nanas, mais surtout le côté endormi de Mitchum. C'est un mystère, cet homme. Dans tous les films où il joue, on a l'impression qu'il joue, mais qu'il dort, et qu'en fait, il a fait du cinéma pour ne pas travailler.
Il est peut-être allé voir Les Étendues Imaginaires.
S'il avait dû faire un autre métier, il aurait fallu faire quelque chose. Tandis que là, il arrive sur le plateau, il a un air complètement hébété, et il est génial.
Et on le voit chanter, enregistrer un disque qui n'est jamais sorti.
Voilà, donc c'est l'Arabia qui sort en même temps un livre sur ce film. Donc, de Bruce Weber, Nice Girls Don't Stay for Breakfast.
Conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Sophie Avon, Michel Simon, Eric Nehoff, Xavier Leherpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lysiane Selam à la technique. Ce soir au Théâtre de l'Alliance Française, et je les remercie, il y avait Marie Le Peintre, Lydwin Caron et Stéphane Touvenin. La réalisation était de Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu ici au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris. Il aura lieu le jeudi 21 mars avec deux émissions, l'une consacrée à la littérature et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de théâtre. à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.